États-Unis, anatomie d'une démocratie.
3 ans après la prise du Capitole, la démocratie américaine est fragile, violente et au bord du chaos. Kamala Harris, comme Donald Trump, prétendent vouloir la sauver. Mais quelle est la véritable histoire de cette démocratie? Un modèle ou une utopie jamais réalisée?
Thomas Negaroff.
6 grandes dates, 6 épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'historien Romain Huret.
Épisode 3. 1941. La tentation fasciste et l'adieu à l'isolationnisme.
Les 3 groupes les plus importants qui ont poussé ce pays vers la guerre sont les Britanniques, les Juifs et l'administration Roosevelt. Nous sommes au bord de la guerre, mais il n'est pas encore trop tard pour rester à l'écart. Charles Lindbergh, Des Moines, le 11 septembre 1941. Romain Huret, on continue notre conversation sur la démocratie américaine. Alors là, Charles Lindbergh, pour plein de gens, c'est l'extraordinaire aviateur qui traverse sur le Spirit of Saint-Louis l'Atlantique. On est avant l'entrée en guerre des États-Unis, septembre 41, on n'est pas encore en décembre 41. Il faut que tu nous fasses une explication de texte. Est-ce que cet isolationnisme teinté d'antisémitisme, est-ce qu'il est propre à Charles Lindbergh lui-même tout seul dans son coin ou c'est un vrai courant aux États-Unis?
Alors, c'est un vrai courant aux États-Unis et qui s'exprime dans la voix d'une superstar de l'époque. Hein. Il faut rappeler qui est Lindbergh, très grand aviateur. Il va être aussi extrêmement connu puisque l'un de ses enfants va être enlevé. Donc, une histoire qui va beaucoup marquer l'Amérique. Et donc, c'est une figure marquante, hein, une grande célébrité du temps. Et là, il a des propos d'une violence extrême.
Hein, incroyable. Hein.
Incroyable. Et qui peuvent surprendre tout le monde. Hein. On imagine, dans l'imaginaire collectif, que l'entrée en guerre des États-Unis, à la Seconde Guerre mondiale, va être voulue par tout le monde.
Et une évidence.
Et une évidence pour tout le monde. Mmh. La démocratie en marche, la victoire finale, etc. C'est pas du tout le cas en 1940, 1941. Et on voit apparaître un mouvement qui est très important, qui s'appelle America First.
Tiens, ça me rappelle quelque chose.
Ça rappelle quelque chose. Il y a des liens.
Ça rappelle quoi?
Ça rappelle Trump, bien sûr.
Ah oui, son slogan de campagne.
From this day forward, it's going to be only America first. America first.
Dès la fin des années 20, on voit apparaître des organisations, des associations qui vont défendre cette idée d'une Amérique éternelle, blanche, protestante, et qui doit rester ainsi.
Ça se traduit d'ailleurs, dès les années 20, par les premiers quotas anti-migrants, en 1924, qui visent les Européens du Sud et beaucoup les Juifs. Ça, c'est une réalité qu'on a souvent oubliée.
Qu'on a oubliée et qui va complètement transformer aussi les années 20, hein, puisqu'on on a une dynamique migratoire qui est très forte. Hein. 26 millions de personnes entrent sur le territoire entre 1890 et la Première Guerre mondiale. Donc c'est colossal, c'est environ 800 000 personnes par an, pour avoir une idée des flux migratoires. Cette Amérique qu'on qualifie de nativiste, hein, isolationniste, hein, tout d'un coup, dit on arrête, il y a beaucoup trop d'immigrés dans le pays.
Elle a peur d'être remplacée, pour employer un concept contemporain.
Peur d'être remplacée, hein, et ils visent principalement les catholiques qui arrivent d'Europe du Sud, hein, italiens, les catholiques irlandais aussi, les afro-américains, bien évidemment. Et l'un des exemples les plus frappants, hein, pour beaucoup, et je crois que ça aidera tout le monde à comprendre ce qui est en train de se jouer, c'est la renaissance du KKK, du Ku Klux Klan, qui réapparaît après la Première Guerre mondiale.
Qui apparaît quand d'abord?
Qui apparaît après la guerre de sécession pour la première fois. On a une première expérience.
En réaction à la guerre de sécession.
En réaction à la guerre de sécession et au triomphe du Nord et à la fin de l'esclavage. Il y a un premier clan qui va disparaître. Et le deuxième clan réapparaît en 1916 à la suite du succès d'un film qui est le blockbuster du début du XXe siècle, qui s'appelle Birth of a Nation, Naissance d'une Nation, de D.W. Griffith. Qui est un film qui raconte l'histoire de la nation aux États-Unis et qui est un film ouvertement raciste, hein, puisqu'il explique que la nation états-unienne, hein, s'est fondée, hein, sur l'identité blanche, hein, et l'exclusion de la population afro-américaine, qui est une véritable menace, hein, qui doit être endiguée, cantonnée par le clan, hein, et donc qui légitime la création du clan. Le film est un succès et le clan est recréé après de manière étonnante et avec des bastions qui sont dans, autour de des moines, hein, qui sont dans ce Midwest, l'Amérique
cette
globale.
Amérique-là.
Cette Amérique-là.
Et c'est des centaines de milliers de personnes.
C'est 4 millions de personnes.
4 millions de personnes.
4 millions de personnes. C'est une vraie association, donc les gens partent en week-end clan et,
sympa.
Et organisent leurs activités en fonction de leur appartenance au clan. On le dit hein, dans la vie publique, oui. On peut être élu en étant membre du clan ou pas être élu. Donc c'est quelque chose qui a pignon sur rue, hein, complètement, mais qui montre bien le pouvoir, la puissance cette Amérique rurale et qui, avec la montée des tensions dans les années 30, fait de l'isolationnisme sa principale cause. Il faut absolument que l'Amérique reste en dehors de ce qui est en train de se jouer parce qu'elle perdra son âme à soutenir le camp des démocraties. Hein. On est en septembre 41, donc Roosevelt a déjà fait un pas en avant, le pré-bail, etc. Donc des mesures qui visent à soutenir plutôt le camp de la démocratie. Hein. Donc l'Amérique est déjà engagée là-dedans. Et on voit une dénonciation très forte hein, du soutien des Britanniques, des Juifs. Là, il y a un sous-texte économique et capitaliste. La guerre qui est faite aussi pour enrichir une partie de la population. Et donc il y a des enjeux économiques hein, qui expliquent la décision de Roosevelt. Et ensuite, il y a l'administration de Franklin Delano Roosevelt que cette Amérique isolationniste déteste.
C'est des socialistes.
Socialistes. Roosevelt accusé d'être un dictateur. Un homme qui a trahi tous les idéaux aux États-Unis, qui a fait entrer des Juifs, qui a fait entrer des femmes dans ses principaux cabinets, qui a mis en place une démocratie sociale, etc. Bref, il déteste Roosevelt.
Et au donc, point d'ailleurs de fomenter pas mal de coups d'État dans les années 30 pour renverser Roosevelt.
Tout à fait, il y a toute
une nébuleuse.
Une nébuleuse fasciste hein, autour de...
C'est important que tu dises ce mot, fasciste. Il y a des fascistes américains.
Oui, il y a des
dans les années 20 et années 30.
Il y a des fascistes américains qui ont pignon sur rue, hein, puisque la liberté d'expression aux États-Unis permet aux fascistes de s'exprimer très ouvertement. Et donc, on a des manifestations de nazis dans les années 30 à New York et ailleurs. On peut dire ce qu'on veut, on peut soutenir qui on veut aux États-Unis, et c'est encore une grande partie le cas aujourd'hui. Et donc, il y a une véritable mouvance fasciste avec une vraie peur. Hein, dans les années 30, tout le monde a peur hein, que les digues cèdent et que quelqu'un se transforme en dictateur ou en tyran, hein, comme on disait au Moyen-Âge ou à l'époque moderne.
C'est pas arrivé, mais Philip Roth a écrit « Le complot contre l'Amérique », dans lequel Charles Lindbergh, dont j'ai lu une citation, devient président et bat Roosevelt pour un, je crois, troisième mandat, c'est le mandat de 1940. C'était possible, ça ?
En tout cas, ça ne s'est pas réalisé. Je pense que Roosevelt a très largement tenu son pari de créer une troisième voie, qu'il appellera la démocratie industrielle, qui serait une démocratie idéale, parfaite, que le reste du monde devrait imiter. Un système qui soit entre le socialisme, qui n'a jamais vraiment pris aux États-Unis comme en Europe, et le fascisme. Et il va mettre en place hein, toute une série de transformation hein, pour que le pays arrive à faire face à la fois à la crise économique. Hein. Il va vraiment mettre en œuvre la démocratie industrielle avec des grandes lois sur la liberté syndicale, sur le salaire minimum, la sécurité sociale, à tel point que beaucoup de socialistes français vont aller aux États-Unis et vont s'en servir comme source d'inspiration pour le Front populaire. Hein. Mmh. Donc ça va être la première tentative de Roosevelt. Et la deuxième, ça sera la Seconde Guerre mondiale, hein, où il finira par engager massivement le pays dans l'aventure militaire, hein, et à nouveau à en faire une guerre juste, une guerre pour la démocratie états-unienne, pour les libertés fondamentales, et parce que les temps ont changé désormais pour imposer en quelque sorte le modèle démocratique dans le reste du monde.
Mais il a fallu que l'Amérique soit attaquée sur son propre sol, même si Hawaï n'est pas encore un État appartenant à l'Union, le 7 décembre 1941.
15 minutes suffirent pour réduire à néant la plus belle escadre du monde. Ce fut sans doute le plus fulgurant désastre naval de tous les temps. 5 cuirassés détruits ou coulés, 3 ravagés par l'incendie, un grand nombre de croiseurs et de destroyers détruits, 3500 morts, pris de l'impréparation et de l'insouciance.
Je me souviens avoir lu que Gerald Nye, qui est l'un des chefs de file de America First, le lobby isolationniste que tu évoquais tout à l'heure, est à la tribune quand on lui apprend que Pearl Harbor a été attaqué, la base américaine a été attaquée par les Japonais. Il annonce quasiment en direct la dissolution d'America First, et lui-même, alors qu'il est plus âgé, trop âgé pour s'engager, veut s'engager dans l'armée américaine. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là le 7 décembre 1941 ?
C'est un choc extrême, hein, parce qu'on est toujours aussi dans cette dynamique de la victoire, dans cette dynamique expansionniste, hein, où finalement les États-Unis sont intervenus et ont réussi à imposer leur ordre militaire contre les Amérindiens d'abord, puis dans toute une série de pays en Amérique centrale. Et là, pour la première fois, ils sont attaqués, hein, ils sont visés, et le modèle religieux, le modèle politique, le modèle culturel est remis en cause, et donc il va y avoir une adhésion de masse, hein, qui est beaucoup plus forte que pendant la Première Guerre mondiale, où il y aura des résistances assez fortes dans le pays à l'engagement de l'armée des États-Unis. Là, il n'y en a pas, et du jour au lendemain, on bascule du côté de l'économie de guerre et de la militarisation de l'économie et de la société. Et donc, on verra les entreprises Ford, par exemple, hein, dont le fondateur était antisémite, très hostile à l'expansionnisme états-unien, favorable à America First, etc.
Et, à et, dont, le, et dont le portrait est dans le bureau d'Adolf Hitler.
Absolument, oui, qui facilitera la traduction du protocole des sages de Sion
absolument,
aux États-Unis.
Et la diffusion. Ouais.
La diffusion. Donc on a, y compris dans ces rangs-là, tout d'un coup, du jour au lendemain, on se mobilise massivement, on mobilise l'organisation, les capacités organisatrices du pays, et ça va être un atout considérable, puisque en 4 ans, hein, le pays va se mobiliser comme il l'a jamais fait, et créer à la fois une vraie culture de guerre, puisque la mobilisation est massive, elle est totale, et aussi renforcer de manière très importante le pouvoir de l'État. Le projet Manhattan, par exemple, qui va permettre la création de la bombe atomique, c'est typiquement un projet étatique, hein, au sens où l'État va mettre autour de la table une entreprise, hein, Dupont de Nemours, qui était très connue à l'époque pour fabriquer des banylons, et qui va être sollicitée, hein, pour aider à la fabrication industrielle de la bombe atomique. Hein, et donc l'État va convaincre Dupont de Nemours, dont les patrons étaient très hostiles au New Deal, très hostiles à la démocratie industrielle, etc. Ils disent « Banco, on y va ». Et des grands scientifiques, hein, notamment allemands, qui vont immigrer aux États-Unis après les années 30 en Allemagne, et qui vont ensemble travailler à l'élaboration de ce projet. Et ça montre bien toute la force organisationnelle.
Oui,
hein,
ça montre bien ça. Mais ça montre aussi que l'engagement américain dans la Seconde Guerre mondiale ne se résume pas, loin de là, à une défense des valeurs démocratiques, si j'étais bien écouté. C'est quand même aussi parce qu'on a été attaqué, tout à coup, des gens qui n'étaient pas les plus grands démocrates du monde vont accepter l'idée et vont propager l'idée même que c'est une démocratie qui lutte pour les démocraties. Ça semble un peu loin de la réalité, quand même.
C'est loin de la réalité. Et à nouveau, les Afro-Américains se retrouvent embrigadés dans cette guerre au nom de la démocratie états-unienne, au nom de l'excellence et de l'exceptionnalisme de la démocratie états-unienne. Et on les retrouve en Angleterre, on les retrouve en France, on les retrouve partout. Alors, une fois qu'ils reviennent aux États-Unis, on n'accepte pas du tout qu'ils soient des citoyens à part entière. Il y a un intellectuel qui s'appelle Gunnar Myrdal, hein, qui va écrire en 1944 un livre très important qui s'appelle « An American Dilemma », un dilemme américain, qui montre tout le paradoxe, hein, que vivront beaucoup de soldats afro-américains dans leur chair. Hein, le paradoxe de ce dilemme... On est en guerre pour faire triompher la démocratie pour un pays qui, finalement, ne nous accorde aucun droit. Donc, une fois de plus, on est dans ce paradoxe fondateur, hein, qui survit bien après la fin du XVIIIe siècle.
Mais l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et au lendemain de la guerre, et on est vraiment le produit de cette histoire-là, reste l'image que l'Amérique a combattu auprès des démocraties européennes pour les libérer du joug totalitaire nazi. Ça, c'est une victoire idéologique, ça, que ça nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui, et que ce soit... Finalement, l'histoire qu'on a racontée des fascistes américains, elle est très, très méconnue. C'est quand même le résultat aussi de cette victoire idéologique américaine, plus que militaire, peut-être même.
Oui, et puis je pense qu'on va mettre aussi sous le tapis, hein, à la fois cette histoire du fascisme, de l'isolationnisme, d'America First, du conservatisme. En 1945, on pense que tout ça est terminé, que c'est fini, que c'est un relent du passé, un soubresaut du passé, et que désormais, l'Amérique est passée à autre chose. Hein. C'est une Amérique des droits de l'homme, de la démocratie, et qu'il faut défendre cette Amérique.
J'y reviens parce qu'on a passé très peu de temps dessus, mais America First, le slogan de Trump, est-ce que pour toi c'est volontaire, ce choix? Est-ce que c'est ce qu'on appelle aux États-Unis du dog whistle, c'est-à-dire les sifflets à ultrasons pour que ceux qui veulent entendre, entendent ce qu'il y a à entendre derrière ce slogan et que les autres ne se rendent même pas compte du caractère dangereux d'un tel slogan? Est-ce que il connaît l'histoire de son pays?
Sa propre histoire.
Ouais.
C'est l'histoire de son père, hein. C'est l'histoire de la famille Trump, hein, qui était proche des cercles America First, donc il connaît bien son histoire. Il est impossible que ce soit le fruit du hasard, hein, ce choix. Mais ça renvoie à deux choses. Je pense qu'il y a un clin d'œil à cette histoire états-unienne, à cette histoire d'une Amérique blanche oubliée, conservatrice, hein, qui se retrouve dans ce slogan. Mais il y a également un choix géopolitique qui a été très largement assumé par Trump, hein, et par Obama aussi d'une certaine manière, hein, qui est d'arrêter le va-t-en-guerre états-unien, hein, qui va triompher après le 11 septembre. On va avoir beaucoup d'interventions à l'extérieur, et ça commence avec Obama, ça va très largement se développer avec Trump. On se rend compte que l'Amérique n'a plus les moyens de mener autant de guerres, et donc on voit apparaître un néo-isolationnisme, hein, avec comment dire, des manières de faire différentes, hein. Obama penchera plutôt vers un multilatéralisme en disant il faut que l'Amérique combatte mais avec d'autres partenaires, l'OTAN, etc. Dans le cas de Trump, c'est un néo-isolationnisme qui se replie sur lui-même, hein, et qui veut éviter que l'Amérique intervienne de cette manière-là, et il veut faire payer ses alliés désormais cash.
Obama, Trump, tu en as parlé, deux options géopolitiques, mais aussi deux visions très différentes de l'Amérique, la notion de guerre culturelle et ce qu'elle dit de la démocratie américaine, c'est l'objet de notre prochain épisode.
États-Unis, anatomie d'une démocratie est un podcast original de France Inter.